Hello, que la paix soit sur toi, bienvenue dans Ersen Time, un lieu sûr qui parle d'excellence, de spiritualité et où on essaye d'évoluer ensemble dans plein de sujets différents. J'ai une introduction maintenant, oui, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je suis plus en mode freestyle. Enfin voilà, c'est Anya, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la gestion de la fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, et plus globalement de l'attache à certaines situations, certains contextes, certaines atmosphères qui nous rendent dépendants et qui parfois nous font souffrir. J'ai souvent des demandes de conseils par rapport à ça, Anya, comment on peut faire quand une amitié se termine. Parfois ça fait douter de nous, parfois ça juste nous met mal et ça nous permet pas d'être dans de bonnes conditions pour plein de choses. La plupart d'entre nous, on sera confronté forcément à une rupture difficile dans notre vie, que ce soit avec des choses ou des personnes. Le deuil, c'est naturel, donc les émotions qu'on peut ressentir, etc. C'est des choses qui sont naturelles pour l'humain dans la plupart des cas. La douleur, elle guérit avec le temps et on avance. Des fois, on se rend compte de certaines choses, des fois non. Mais parfois, ça peut être aussi plus grave hein, parce que les ruptures, elles peuvent déclencher ou aggraver des problèmes de santé mentale. Par exemple, surtout dans le cas de relations amoureuses, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être au plus bas, avoir de graves conséquences sur leur vie. Je connais des gens qui ont arrêté leurs études pour ça, qui ont démissionné de leur travail pour ça, qui n'arrivaient plus à sortir de chez eux pour ça, etc. Donc, c'est un sujet important. Aujourd'hui, on va parler du détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est la capacité à abandonner l'attachement émotionnel aux personnes et aux situations. Et il ne s'agit pas d'être indifférent à l'autre ou à la situation, mais juste de maintenir une distance saine pour ne pas être submergé par ses émotions. C'est facile à expliquer, c'est plus difficile à faire. Pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes attaché à une personne ou à une situation, en fait, cette chose-là, elle vous contrôle. Pas forcément de manière malsaine, c'est pas la personne qui a envie de vous contrôler, la personne n'est pas forcément toxique, mais cette chose-là vous contrôle. Cette chose, elle peut vous faire sentir heureux ou malheureux. Quand vous attendez un message de quelqu'un, en général votre amoureux, votre amoureuse ou anyway, autre chose, vous allez être content, vous allez recevoir le message et tout. Et puis quand vous l'avez pas ou quand la situation elle est un peu conflictuelle ou que voilà, vous allez être pas heureux. Et donc en fait, ces gens-là ont un pouvoir sur vous et sur vos propres émotions. Et ça, c'est très dangereux pour votre bien-être. C'est pareil pour quelque chose qui a pu être dans le passé. Donc une situation qui vous laisse des traces et qui aujourd'hui, pareil, vous contrôle. Et pour laquelle vous êtes dépendante. Donc il faut se détacher, se relâcher de ces choses-là pour pouvoir évoluer dans vos vies. Parce que sinon, vous vivrez toujours mal certains moments. Vous voyez, par exemple, dans un mariage, il y aura forcément des moments où vous serez déçu, forcément des moments où vous serez malheureux avec cette dépendance. Et surtout dans la peur de perdre l'autre, vous voyez, parce que parfois on va se dire... Je suis rien sans lui, je suis rien sans elle. Et ça peut être aussi le cas dans une amitié. Cette personne-là m'accorde l'estime que je mérite. C'est cette personne-là qui me fait exister. Cette personne-là me complète. Je déteste ce terme. Les gens ne vous complètent pas. Vous vous suffisez à vous-même. Personne ne vous complète. Dieu vous a mis sur cette terre parce que vous êtes des humains. Vous êtes des humains à part entière. À part entière. Personne ne vient compléter. Puisque la part est déjà entière. Donc j'aime être avec ses amis, j'aime être avec cet époux, j'aime cette situation, ce travail, voilà. Mais si je lui donne l'importance, si je leur donne l'importance qu'ils ne méritent pas, c'est-à-dire plus que mon égal finalement, alors je suis complètement impuissante. Si je donne plus d'importance à mon époux, à mon épouse, que je m'en donne à moi-même, ça peut pas fonctionner en fait. On doit créer la possibilité d'être heureux soi-même, sans dépendance émotionnelle, psychologique, etc. On ne cherche pas quelqu'un pour se compléter, on se complète déjà toute seule. C'est Bernstein, une auteure qui a écrit Spirit Junkie, qui nous explique qu'en fait on agit souvent avec notre ego. Et que notre ego nous a détaché un peu de notre amour propre, parce que quand on est un bébé, on n'a aucun ego en fait. On n'est qu'amour, Et l'auteur explique en fait que le fonctionnement de notre ego peut se manifester dans nos vies, dans nos relations. Et pas forcément de la manière naturelle qu'on entend l'ego. En fait, c'est que si on opère à partir de notre ego, on peut être susceptible d'agir par peur ou par colère. Et donc, si on agit par peur, on va agir dans nos relations déjà dans la peur de perdre l'autre, dans la peur de décevoir l'autre, dans la peur de pas mériter l'autre, etc. Donc déjà, il faut se détacher de ça. Parce que si on agit à partir de ces émotions-là, on ne fera que des choix irraisonnés et on aura des émotions irraisonnées. Et c'est aussi pour ça qu'on doit avoir cet exercice-là introspectif sur le moment T de nos pensées et de nos sentiments. Quand on a une pensée, quand on a un sentiment qui est en train de venir, on se demande, là c'est quoi le but de cette pensée, c'est quoi le but de ce sentiment? Si le but de la pensée ou de ce sentiment-là, c'est de nous protéger de la douleur, de la souffrance, de la peur, de l'abandon, de ci ou de ça, etc. Ça vient de ce qu'elle appelle notre ego. Mais si le but de la pensée ou du sentiment, c'est de nous aider à grandir, à évoluer, etc., ça vient vraiment de notre essence, de notre moi intérieur qui lui est à écouter. Elle dit aussi que si on opère à partir de cet ego-là, on est plus susceptible d'être attaché à nos possessions, à notre statut, à nos réalisations, etc. Là, c'est l'ego, comme on l'entend en général dans le sens naturel du terme, et on va être motivé par tous les défauts de l'âme qu'on connaît, cupidité, ambition, etc. On est aussi moins susceptible d'être ouvert à de nouvelles expériences ou à apprendre des autres. On va être souvent sur la défensive et résister au changement. Donc cet ego-là, en fait, il nous limite et il est très nocif pour nous. Et quand on va parler justement de résistance au changement ou de ne pas être ouvert à des nouvelles expériences, finalement, c'est des choses qu'on expérience toutes et tous. Et si finalement, en fait, cette peur qu'une relation se termine, c'était pas juste ça? Je me faisais la réflexion, si c'était pas juste le fait de sortir de cette zone de confort-là, d'avoir en fait ce changement-là qui nous fait perdre nos repères, qui nous fait dire « ok, t'as une habitude en fait qui est en train de disparaître. » Le fait de parler avec cette personne, le fait de voir cette personne, le fait de ne plus entendre les mots de cette personne, le fait d'être complètement dans un autre planning finalement, qui soit émotionnel, qui soit routinier, etc. Et ça, ça peut faire peur. C'est comme quand on est dans un travail, on l'aime pas, ou voilà, on peut même l'aimer un peu, et on se dit « bon, je vais peut-être postuler ailleurs ». Et puis le moment vient, et puis on a quand même très peur de le faire. Et cette peur-là, des fois, elle est toxique pour nous parce que on pourrait être plus épanoui ailleurs ou on pourrait juste, en fait, apprendre ailleurs, vous voyez? Donc, finalement, peut-être qu'on n'est pas forcément attaché aux gens ou aux choses, c'est une réflexion que je me fais. Peut-être qu'on a juste peur du changement. Parfois, on a aussi juste peur de la solitude. Et parfois, c'est vrai qu'on est quand même dépendant. Dépendant des autres parce qu'on leur donne plus d'importance qu'ils ne méritent. Et quand je dis ça, je ne cherche pas à rabaisser les gens ou à rabaisser certaines situations. Non, c'est juste qu'on leur donne plus d'importance qu'ils ne méritent. C'est-à-dire, on leur donne plus de contrôle sur nos vies qu'ils devraient en avoir. Plus d'estime qu'on ne devrait en avoir. En tout cas, à partir du moment où on estime plus quelqu'un que nous-mêmes. Vous voyez, on doit tous s'estimer de manière égale. Parce que si on pense que on ne peut pas vivre tout seul, que une relation n'est pas remplaçable, ça veut dire que on se sent complètement incapable de se suffire à soi-même. Et j'entends se suffire à soi-même, pas dans le terme solitude. L'être humain est un être social, mais j'entends se suffire à soi-même sur le moment T, de manière émotionnelle, psychologique, etc. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver un équilibre entre la confiance qu'on a en nous-mêmes, la confiance qu'on a aux autres et le détachement de ces choses-là, sans s'en désintéresser ou s'en désinvestir émotionnellement, parce que sinon c'est complètement contre-productif et ça manque d'amour, de bienveillance et de relation finalement, d'intimité. Mais pour libérer ce contrôle excessif-là, cette peur, cet attachement au résultat, vous voyez, qu'on a envie que tout se passe bien tout le temps, etc., on est obligé de lâcher prise et de remettre ces résultats-là, ces relations-là, les conséquences de certaines situations, de certaines épreuves à Dieu. Et c'est en cultivant cette attitude de détachement que ça devient possible de vivre dans ce flux en fait de vie, dans ces cycles, de faire simplement confiance au processus et d'accepter les événements tels qu'ils se présentent. Et ça, c'est super important dans notre spiritualité parce que c'est ce qui va nous permettre de se débarrasser de toute anxiété, de tout stress. Et je le dis souvent quand on parle des to-do, quand on parle de toutes les choses qu'on a à faire, des études, des réussites, etc., que nous, on fait de notre mieux et qu'ensuite, le reste, ça ne nous appartient pas. Mais c'est pareil dans nos relations. On fait du mieux qu'on peut dans nos relations. Parfois, on disjoncte, hein, parfois c'est de notre faute si une relation se termine, parfois c'est de la faute à l'autre, parfois c'est de la faute à personne. Mais dans tous les cas, on ne peut pas changer ce qui est en train de se passer. Il y a des sagesses à en tirer. Il y a un processus qui est forcément le bon et tout ce qu'on peut penser de neutre ou de négatif, ça sera forcément le contraire. Tout sera toujours mieux que ce qu'on a dans notre esprit. Dieu viendra toujours en réponse à vos besoins. Donc ce n'est pas cet ami-là qui répond à vos besoins, ce n'est pas cet époux-là qui répond à vos besoins, ce n'est pas telle personne, tel travail, telle gloire, tel statut qui répond à vos besoins. En fait, c'est Dieu qui pourvoit à vos besoins d'amour, vos besoins de reconnaissance, vos besoins de... En fait, tous vos besoins émotionnels et psychologiques, il en est garant. Donc, personne d'autre ne pourra vous apporter ce que vous vous apportez à vous-même avec l'aide de Dieu. Et si on continue dans cette logique-là, bien sûr que personne n'est éternel, même pas vous d'ailleurs. Et ça nous permet de nous attacher aussi à cet éternel qu'est Dieu. Ça nous permet de mieux comprendre finalement la volatilité de la vie, comment tout va et vient. Vous voyez, l'argent va et vient, le travail va et vient, les gens vont et viennent. Et Dieu finalement, c'est... le seul statut auquel on peut s'attacher dans cette vie. Même les lois physiques peuvent changer, vous voyez. Le temps, on le voit comme quelque chose d'immuable et de relativement stable, mais c'est un objet de la création, mais demain, il peut être sujet à changement. En fait, rien n'est ancré dans la vie. C'est quelque chose que je dis souvent. On prend pour acquis tout ce qui existe autour de nous, mais tout est sujet à la volatilité. Même nos propres opinions, souvent, on les ancre. On se dit c'est comme ça, pas autrement, etc. Mais tout peut être sujet à changement. La vie est un cycle, et tout est un cycle. Vous voyez ? Nos propres parents, pour ceux qui ont vécu leur mort, et que Dieu vous accompagne dans cette épreuve, et vous permette de vous libérer de toute émotion négative, nos propres parents vont nous quitter ou nous ont déjà quittés. Et puis on a des parents... Je vous envoie beaucoup d'amour et de force qui ont aussi perdu des enfants, ou qui ont perdu. Et ça, c'est des épreuves très très lourdes. Et vous voyez que personne n'est à l'abri, en fait, d'un deuil, que ça soit une relation qui se termine ou une personne qui quitte ce monde. Et on a l'histoire d'Abraham, hein, que la paix et la grâce soient sur lui, qui nous montre bien que être attaché au bien de ce monde, que ce soit des personnes ou des choses, ça ne doit pas être une nécessité. Et au contraire, c'est quelque chose dont, sur lequel en fait on doit travailler pour respirer et pour avoir des sentiments qui ne surpassent pas l'irraisonnable, pour pouvoir avoir le contrôle sur nous-mêmes et pouvoir prendre des décisions rationnelles quand il s'agit des autres et de notre propre vie. Vous voyez. Ce que vous pouvez faire qui est intéressant, c'est que vous pouvez écrire une liste de toutes les choses auxquelles vous êtes attaché, que ce soit des gens, des bons, écrivez pas des petits objets chez vous, mon surligneur gris, mais vraiment toutes les choses, toutes les situations, tel statut social, telle estime que ma mère a pour moi quand je réussis, telle personne, tel regard de l'autre sur moi, etc. Toutes les choses auxquelles vous êtes attaché, le matériel, les statuts, les gens, Et si oui, pourquoi? Pourquoi vous êtes attaché à cette chose? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Et vous voyez les choses que vous allez identifier, bah c'est ces choses-là que vous allez devoir travailler. Je suis attachée au regard de l'autre qui pose une vision améliorative sur moi. Vous voyez, mon époux, il me fait me sentir mieux, il me fait me dire que je suis capable de faire telle chose et tout. Ok. Donc, t'es pas attachée à lui. Finalement, t'es attachée à ce regard, à ce sentiment. Donc, solution, il faut essayer de travailler ton estime de toi. Il faut essayer d'avoir cette vision améliorative de toi. Et parfois, bien sûr, on est juste attaché à la relation, dans le sens où on aime la personne, on aime sa compagnie, on aime les habitudes qu'on a créées avec cette personne, on aime la relation intime qu'on a créée avec cette personne. C'est comme le petit prince et le renard, on a apprivoisé quelqu'un, et une fois qu'on l'a apprivoisé, on est attaché à cet apprivoisement. C'est tout à fait normal. Et je pense que la liberté, elle va se trouver dans le fait de se dire que cette relation-là peut se terminer à un moment, que si elle se termine, ce n'est rien, et qu'elle nous aura au moins apporté ce sentiment-là de bien-être, d'affection, pendant un moment, et qu'au moment où ça se termine, on en ressortira plus aimé, on en ressortira plus grandi, on aura plein de sagesse et de leçons aussi hein, qu'on pourra en tirer. Ça sera un apprentissage pour nos prochaines relations. Et il faut surtout se dire, et ça, je le pense sincèrement, que personne n'est irremplaçable. On est plein d'humains sur Terre. Si une personne t'a apprivoisé, une autre pourra le faire. Si t'as apprivoisé quelqu'un, tu pourras apprivoiser quelqu'un d'autre. Et puis parfois, un peu de solitude aussi, ça fait pas de mal. Hein. Vous connaissez mon amour pour l'introversion. Ça permet de beaucoup en apprendre sur soi et parfois d'orienter nos prochaines relations, de les rendre plus saines, d'avoir une approche différente, une liberté différente dans ces dernières, et c'est pas plus mal. Aussi, quand on parle de situation, on parle souvent de résultats. Quand on est attaché à un résultat particulier, on attend quelque chose de particulier, même pas dans nos relations, hein, on attend que cette personne agisse comme ça, au travail on attend qu'on ait cette conséquence-là, quand on fait quelque chose on se dit que ça va être comme ça, etc. On devient vite anxieux, stressé lorsque les choses ne vont pas dans ce sens. Et pour être en fait tranquille, il faut vraiment se détacher de ce résultat-là. Il faut qu'on accepte que on fait de notre mieux et le reste ne dépend pas de nous. Bien sûr, si on ne fait pas de notre mieux, on peut être stressé du fait qu'on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. Mais ça ne sert à rien d'être contre-productif et de se flageller pendant 6-7 mois. Le mieux, c'est « Ok, j'ai mal fait, ce qui a donné un résultat pour lequel je ne suis pas content. Comment je peux faire pour m'améliorer les prochaines fois ?» C'est tout. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? On identifie, on solutionne et on passe à autre chose. Parce que en s'auto-flagellant constamment, on se met dans une position qui est tellement contre-productive. On perd du temps, de l'énergie, des émotions qui au final ne nous amènent à rien du tout de bon ni d'attractif pour la suite en fait. Et pareil, si on est attaché à une personne en particulier, on peut aussi développer des réactions bizarres, on peut être collant, on peut en demander beaucoup. Et alors que si en fait on se détache de cette dépendance excessive, on peut juste profiter de la compagnie de cette personne en étant neutre, en n'attendant rien d'elle, en se disant que voilà, elle répond pas, c'est pas grave. Et c'est pour ça souvent que je dis c'est important d'avoir des projets, c'est important d'occuper son temps. Parfois c'est dur de suffire à soi-même sans occuper son temps, juste d'être seul avec soi-même, mais c'est important de faire des choses parce que quand on est occupé, on n'a pas le temps de penser aux autres, on n'a pas le temps de penser à ce que peut nous apporter l'autre, on n'a même pas le temps de regarder son téléphone pour se dire est-ce qu'il m'a envoyé un message. On est trop focus en fait sur ce qu'on a envie de faire. Et quand je dis ça, ça peut être juste faire le ménage chez soi. Hein. C'est vraiment le fait de faire des choses, le fait d'avoir une journée remplie, le fait d'être occupé à devenir la meilleure version de vous-même, le fait d'évoluer, le fait de vous focus sur votre cœur à vous, sur votre corps, sur votre santé, est sur plein d'objectifs, mais ça vous rend complètement, mais tellement intradépendant, dépendant de vous-même et de personne d'autre. Et au moins, vous êtes neutre, vous êtes simple, vous n'êtes pas collant et vous attendez rien de l'autre. Et ça, c'est très, très, très important. Pareil pour les idées, on en parlait. Vos idées, vos opinions, ça ne sert à rien d'être attaché. Parce qu'on peut devenir inflexible, dogmatique, on peut être attaché à des idéologies qui vont bouger en fait. Il faut être ouvert à de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Et dans nos relations aussi. Ça vous permettra également de vous détacher des gens. Parce qu'en étant trop attaché à un modèle, déjà on se ferme la porte à d'autres, donc à d'autres gens, à d'autres activités, à d'autres situations. Et puis on ne se donne pas la possibilité d'évoluer dans cette relation-là. C'est qu'en fait on se dit cette relation elle est comme ça et pas autrement. Moi j'ai mes amis d'enfance, c'est mes habitudes, même si voilà on ne s'entend plus, même si on ne prend pas le même chemin. Moi ça me stresse qu'on se parle plus, ça me stresse qu'on prenne nos distances. J'ai pas envie. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous vous fermez la porte en fait à peut-être des relations qui vont plus vous épanouir, qui seront plus en cohérence avec votre vous de maintenant. Juste par cette peur de la flexibilité en fait, du fait que les choses, faut les laisser s'en aller. Et ça, c'est vraiment important. Ce détachement-là, il peut vous être utile dans tellement de situations. Là, on a parlé des situations normales, mais vous avez aussi les situations avec excès, quand vous êtes dans une relation toxique, dans une relation malsaine. Nombre de personnes qui ne veulent pas partir parce que c'est l'inflexibilité qui les guide. C'est je suis en relation avec cette personne-là, amicale, parentale, familiale, amoureuse, tout ce que vous voulez. En fait, je suis en relation avec cette personne-là depuis tellement longtemps, ou je suis dans ma routine avec cette personne-là, qu'est-ce que ça va être après? Comment je vais faire quand cette personne-là sera plus là? J'ai toujours connu ça, j'ai toujours connu ce cadre, okay, où je vais aller maintenant? Et ça vous permet pas de vous concentrer en fait sur vos propres besoins, sur vos propres objectifs. Comment vous pouvez faire pour vous en détacher? Déjà, il faut identifier vos déclencheurs. C'est quoi les choses qui ont tendance à déclencher vos réactions émotionnelles? C'est quoi les choses qui ont tendance à provoquer en vous ces sentiments-là négatifs, de peur, etc.? Qu'est-ce qui vous met mal quand une relation se termine? Et une fois que vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez essayer déjà de développer des stratégies rationnelles pour y faire face. Après, il faut fixer des limites. C'est important de fixer des limites avec les personnes et les situations qui vous causent du stress ou de l'anxiété. Ça va vous permettre de vous détacher de manière plutôt simple à terme, parce qu'au début, c'est un peu dur. Donc, si vous pouvez limiter vos contacts avec des personnes justement qui sont toxiques, malsaines, etc., évitez complètement certaines situations que vous n'aimez pas, alors vous le faites. Ça vous permettra de vous détacher clairement de ces situations-là et d'avoir moins de stress, moins d'anxiété, moins d'émotions négatives et de vous concentrer plutôt sur le positif de ce qui a attiré de certaines autres situations. Essayez de vraiment être dans l'instant présent et de prêter attention à vos pensées, à vos émotions. Quand vous vous sentez dépassé, essayez de vous prenez quelques respirations, vous vous concentrez sur votre environnement, vous vous concentrez sur ce qui se passe. Genre là, je sais pas, vous conflit avec quelqu'un, vous parlez plus, la personne elle vous ghost, vous êtes mal. Respirez, regardez autour de vous. Vous êtes chez vous, il y a des murs, vous êtes dans cette rue-là elle est dans dans ce pays, sur un océan, sur de la terre, sur un caillou, dans l'espace, on flotte dans le noir. Est-ce que cette relation, cette personne-là, elle est vraiment importante au point de vous mettre mal, de vous faire douter de vous stresser, etc. Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas, j'en suis même sûre d'ailleurs. Essayez d'aller regarder des vidéos, hein. Regardez des vidéos sur l'infiniment grand, à l'infiniment petit, vous allez vous rendre compte que on est tellement rien dans ce monde, ça vaut tellement pas le coup. Mais pour tout, hein. Toutes les choses qui changeront pas votre vie, Vous savez, des fois, on dit oui, si quelque chose t'affecte et tu penses à la règle des 5, dans 5 ans, ça changera rien à ta vie, du coup, tu calcules pas, tu passes à autre chose. Mais ça marche pas dans certaines situations. Par exemple, tu te dis, bah là, si je me marie pas avec cette personne, bah ça va changer des choses dans ma vie dans 5 ans, parce que je serai pas mariée avec cette personne. Moi, c'est pas ça mon conseil. Mon conseil, c'est que ça change rien en fait. Que ça soit cette personne ou une autre, cette personne-là, vous l'avez connue, c'est un humain comme les autres. Il a un nom, il a un visage, il habite dans telle rue. Et puis voilà, c'est une personne parmi 7, 8 milliards d'autres. C'est une fourmi dans une fourmilière. Et vous l'avez connu, vous connaîtrez peut-être quelqu'un d'autre, peut-être pas. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est vous, vos projets, ce que vous avez envie de faire. Et vous dire que par contre, le vous, le votre vous-même, lui, vous allez vous le coltiner jusqu'à la fin de votre vie. Peu importe qu'il y ait 7 ou 8 milliards d'humains, le vous-même, il sera avec vous tout le temps, sans nul doute. Donc c'est la seule personne que vous devez apprendre à aimer, à estimer, à connaître et à supporter. La seule personne dont vous devez devenir complètement dépendant, vous voyez. Et désolée parce que j'écris pas vraiment ce que je dis, donc ça peut être un peu décousu. Mais je vous résume un peu en trois étapes. C'est un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Pasquale Leone qui parlait d'un processus en trois étapes qui pouvait aider à conclure les choses et à finir un peu avec ce sentiment de peur de la fin dans une relation. Et donc il disait l'étape 1, c'était de démêler et d'identifier nos sentiments. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la colère, la tristesse, le manque, etc. C'est en général les sentiments dominants après une rupture. Ils peuvent tous se mélanger. Et ce qui est important, c'est de détacher ces sentiments-là, de comprendre pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère, etc. Où j'ai mal, vraiment. Et d'essayer d'y répondre, en fait, d'essayer de contre-argumenter rationnellement un peu tous ces sentiments pour se demander finalement qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je pense pas que je vais m'en relever sur le long terme? Est-ce que je peux pas combler ces sentiments-là par autre chose qui me fera plus de bien? Etc. Essayez donc dans l'étape 2 de comprendre ce que vous avez vraiment besoin. Quand on a une rupture, c'est très facile de se concentrer sur ce qui aurait pu être fait différemment et souvent de se blâmer soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis une mauvaise amie? J'aurais dû réagir comme ça, j'ai mal agi dans cette relation ou dans cette situation, etc. C'est très important de changer ça et de réfléchir à ce que vous avez besoin. Donc, pas en vous auto-flagellant, mais en comprenant finalement que vous avez besoin d'être rassuré intérieurement. Vous avez besoin de vous dire que j'ai rien qui cloche chez moi, j'ai rien fait de mal, etc. Et en fait, c'est un besoin qui est logique, mais c'est pas forcément un besoin rationnel. Dans le sens où vous avez le droit d'introspecter cette relation-là, c'est juste qu'il faut le faire avec parcimonie et avec détachement, avec prise de recul. C'est possible hein, que vous soyez entre gros guillemets le méchant de l'histoire, même si je pense pas que dans la majorité des cas, on a un méchant et un gentil. Je pense qu'on a des gens qui communiquent mal. On a beaucoup de malentendus, on a beaucoup de personnalités différentes, on a des âmes qui ne sont pas enclines les unes aux autres, et c'est rien. Donc je pense que c'est important la rétrospection. Essayez de voir ce que vous avez peut-être mal fait, comment vous pouvez évoluer, comment vous pouvez changer certaines choses, mais vous fustigez en vous disant « je ne suis pas une bonne personne, j'ai fait cette chose-là et je regrette, etc. » Ça ne sert à rien. À la limite, si vous voulez faire justice, si vous voulez être complet dans votre guérison, vous pouvez vous excuser. Hein, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parfois, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui ne veulent pas écouter. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. Elles vous lisent, mais elles n'ont aucune envie d'être dans une démarche bienveillante. Donc parfois, ça ne sert à rien. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose, honnêtement. Pour être très 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 honnête, moi il y a plein de fois où on me demande ce conseil-là. Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette conversation finale? Et moi je demande toujours, c'est quoi le délire de la personne? Est-ce que c'est une personne qui est intelligente émotionnellement? qui est bienveillante, qui arrive à mettre son ego de côté et qui va pouvoir écouter, avoir cette dernière conversation, ou c'est une personne qui est dans le combat, qui est dans l'ego, qui est dans le non, mais non, j'ai raison et tu as tort, ou qui, vous savez, vous fait des invocations de punchline. C'est la bienveillance sous couvert finalement de méchanceté. Genre, que Dieu t'apporte l'empathie que tu n'as pas. Les gens qui font des invocations comme ça dans les derniers messages de fin, c'est vraiment très très drôle. Je ne t'en veux pas, mais qu'Allah te fasse grandir. Et au final, ça finit pas du tout les conversations dans de bons termes, mais je trouve que ça sert complètement à rien, ça met que de l'huile sur le feu et on a un sentiment d'inachevé. Donc faites attention quand vous avez ces dernières conversations avec les gens, parfois elles peuvent vous faire plus de mal que de bien. Donc vous avez le droit d'être dans cette démarche de rétrospection, de voir ce que vous avez mal ou bien fait. Vous avez le droit également d'être très lucide hein, sur le fait que parfois c'est l'autre personne qui vous a fait du mal, qui a été toxique ou qui a eu des comportements très 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 mauvais à votre égard. Et c'est là que vous devez aussi définir ce que vous avez réellement perdu. Parfois vous êtes attaché à une situation, à une personne, et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là vous apportait pas forcément que du bien, et vous avez pas forcément perdu quelque chose de très important. Et même si cette personne vous apportait du bien, que vous aviez plein de souvenirs en commun, des rêves communs, des projets ou autres, et ben c'est pas grave, parce que ce que vous avez perdu, c'est juste ça en fait. Vous n'êtes pas perdu vous-même, vous avez perdu un peu de souvenirs, un peu de présent, un peu de futur, mais tout ça lié à des gens, lié à des choses, lié à des situations. C'est important aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans l'expérience de perdre quelqu'un. Beaucoup de gens traversent la fin d'une relation à un moment donné. Et ces gens-là peuvent ressentir les mêmes émotions que vous. Donc déjà, ça nous fait nous sentir plus humains. Hein. Vous n'êtes pas complètement fou, vous n'êtes pas hypersensible comme les gens aiment vous dire. Non, vous êtes juste sincère, c'est le mot. Vous êtes sincère dans vos relations et parfois ça vous rend trop dépendant. Donc moi les conseils que je vous donne, c'est vraiment des conseils pour mieux vivre vos relations que vous avez encore ou celles qui vont venir. Maintenant, si vous êtes déjà dans un deuil, déjà dans un processus de guérison, il faut vous donner le temps. Il n'y a pas de calendrier précis pour surmonter des ruptures. Il faut être patient avec vous-même. Il faut vous accorder le temps dont vous avez besoin, prendre soin de vous sur tous les plans. Et comme je vous disais, essayez d'occuper vos journées, essayez de remplacer le temps que vous passez avec l'autre avec vous-même. Avec du comme je vous ai dit, je ne mets pas pause, hein, de la construction interne. Il faut construire ce que vous n'avez pas pris le temps de construire parce que vous étiez focus dans votre relation avec l'autre. Donc c'est vraiment important, et des petits conseils en vrac, après on va parler du FOMO et je vais vous expliquer ce que c'est. Mais déjà il faut vous rappeler que Dieu est toujours avec vous, il est plus proche de vous que votre jugulaire. C'est lui qui va être la source de votre force, de votre confort, et il ne vous abandonnera jamais. Il a un amour inconditionnel pour vous, peu importe vos failles, votre biographie psychologique, émotionnelle, etc. Donc à partir de là, vous êtes complètement digne d'exister, sinon vous ne serez pas sur Terre. Hein. Vous savez, Dieu ne crée rien au hasard. Donc s'il a décidé que vous soyez là, alors vous avez votre place. Et personne ne vous fera douter le contraire, vous avez besoin de personne pour compléter en fait cet être-là qui a été créé. Et vous avez besoin de personne pour vous valoriser. Il faut apprendre à tirer vos atouts de vous-même, parce que Dieu a mis un potentiel en chacun de nous, je l'ai expliqué dans l'épisode sur l'excellence et sur la beauté. Vous pouvez essayer de vous tourner vers des choses qui vous font du bien, que ce soit des choses spirituelles ou des choses psychologiques, sentimentales, etc. pour trouver en fait un réconfort qui n'est pas lié aux gens ou à des situations égocentriques. Donc tourner vers l'ego comme on en parlait au début. Mais vraiment des choses saines qui vont vous permettre de vous recentrer en fait sur vous-même. Il faut aussi réfléchir aux leçons de votre relation. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Comment vous pouvez utiliser cette expérience pour grandir et devenir plus fort? Quel est l'impact d'une rupture sur vous? Et comment essayer de ne pas reproduire cet impact-là quand il est très grand? Parce que c'est pas forcément le mieux, le plus sain en fait, ça peut vraiment vous bloquer, vous ralentir dans votre vie, vous faire du mal, vous laisser énormément de cicatrices, etc. Et comme je sais que beaucoup de gens ont peur de la fin de leur relation parce qu'ils ont peur d'être seuls, je pense que ça serait mon conseil le plus gros, c'est d'essayer d'apprécier un peu la solitude. Souvent on parle de cette dichotomie-là, extraversion, introversion, et je vous dis de ne pas aller contre votre nature. Mais je pense que c'est important de développer un peu notre introversion quand on n'en a pas du tout. Parce que pouvoir se suffire à soi-même dans certaines situations, ça permet vraiment de moins prendre à cœur la fin de certaines relations. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens que j'entends, notamment dans le cadre des couples, qui me disent je suis pas heureuse, ou cette personne-là, j'ai envie de partir, ou elle veut partir, mais je vais être toute seule. Et c'est fou d'être dans des relations malheureuses, dans des relations non saines, juste par peur d'être seule. C'est triste en fait. Vous méritez mieux que ces situations-là. Vous méritez mieux qu'être bloqué dans des situations parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous pensez que ces gens-là sont les seuls que vous méritez. Vous méritez d'être dans des relations extraordinaires, aussi extraordinaires que vous, d'être dans des moments, des situations qui vous illuminent et pas qui vous éteignent. Vous méritez toutes ces choses-là, et si vous ne les trouvez pas dans ces relations, vous devez vous les apporter à vous-même. Faut pas s'enfermer dans des relations, même si elles ne sont pas négatives, il ne faut pas être dépendant de ces situations-là, de ces relations-là, parce qu'elles sont sujettes à bouger. Et c'est pas grave, sortez de votre zone de confort, ne vous embriquez pas dans des trucs parce que c'est une habitude, parce que vous avez cette amie depuis tant de temps, etc. Posez-vous, est-ce que vous avez vraiment les conséquences, les retombées que vous voudriez d'une relation avec cette personne-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous occultez finalement qui ne sont pas si optimales que ça, etc. Et même si c'était la relation du siècle et que finalement elle disparaît, c'est pas grave, parce que vous allez vous reconstruire, vous allez devenir une personne qui se suffit à elle-même, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous voyez, et cette personne-là vous aura fait passer des moments extraordinaires et vous pouvez déjà vous sentir tellement gratifiante et heureuse pour avoir vécu ces moments-là, que plein d'autres ne vivront pas dans des relations qui sont vraiment épanouissantes, vous voyez. Donc dites-vous que rien n'est acquis, vraiment rien n'est acquis, vous profitez de l'instant présent, ne vivez pas dans la peur que cette relation se termine, dans la peur de l'abandon. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien, et que vous ne pourrez jamais contrôler ce qui va se passer, vous n'en avez aucune conscience, rien n'est acquis. La solitude n'est pas acquise. Vous pouvez aujourd'hui être seul, vous sentir seul et demain avoir 1 million de nouveaux amis. Et la compagnie n'est pas acquise. Les gens peuvent partir de leur plein gré ou pas, vous voyez. Les gens peuvent disparaître de cette terre et ils peuvent disparaître de votre vie. Dans les deux cas, vous ne contrôlez rien. Ce que vous contrôlez, c'est vous, votre vie, votre quotidien, votre projet, votre mission de vie, votre potentiel, votre amour pour vous-même. Ce que vous contrôlez, c'est comment vous allez réagir dans ces moments-là. Est-ce que ces moments-là, est-ce que ces gens-là vont vous contrôler au quotidien? Est-ce qu'au moment où cette relation va se terminer, ça va anéantir votre vie et vous allez vous dire « je ne suis rien » alors que vous êtes complètement le contraire de rien, vous êtes un tout. Donc, est-ce que vous laissez l'opportunité à toutes ces choses-là de gérer votre vie, de contrôler votre vie, alors que vous pouvez complètement être juste détaché et libre de tous ces sentiments-là, et vous sentir juste responsable de vous-même et complètement connecté au processus divin, au cycle de la vie, au flux des gens, des personnes, des choses, etc. Et toujours prendre et commencer toutes ces relations dans cette perspective-là. Je profite, je m'épanouis dans ce que je peux. Si je ne suis pas épanouie, je quitte, ça c'est sûr et certain. Mais cette chose-là, elle peut disparaître. Alors je vais en profiter pleinement, sans être dans un sentiment négatif déjà tout de suite. Et puis, quand cette séparation arrivera, si elle arrive, ok. J'étais préparée, c'est possible que ces choses arrivent, c'est pas grave. J'ai d'autres choses à découvrir. J'ai du temps libre qui me permettra de connaître d'autres personnes ou de faire d'autres choses. Je vais essayer de faire le point. Est-ce que j'ai pu faire quelque chose de mal ou est-ce que j'ai pas été abusée dans cette relation? Est-ce que cette personne-là, quand elle me dit que c'est de ma faute, est-ce que ça l'est vraiment avec toute l'objectivité du monde et la sincérité que vous pouvez avoir? Est-ce que cette personne-là m'a fait du mal? Est-ce que je lui en veux? Si oui, est-ce que j'ai besoin d'avoir une discussion avec elle ou est-ce que je peux passer à autre chose? Toutes ces questions-là, vous les posez et vous essayez de prendre votre temps, de faire le deuil tranquillement de ce type de relation et de vous dire que rien n'est grave finalement sur cette terre, on est de la poussière d'étoiles au milieu de l'univers et puis voilà, les gens sont ce qu'ils sont, les humains changeront pas du tout au tout du jour au lendemain, on a toujours des humains qui feront du mal à d'autres humains, on aura toujours des gens qui se comprendront pas et parfois il n'y a pas de méchants dans l'histoire comme je vous l'ai dit, on aura toujours des personnes qui parfois n'ont juste plus envie d'être dans cette relation. Et moi, je les blâme pas. Des fois, on a des gens, voilà, ils ont fait le tour, ils ont plus envie d'être votre ami. Qu'on se dise les choses honnêtement. Et parfois, vous avez rien fait de mal. Mais cette personne-là, elle vous appartient pas et vous lui appartenez pas. Elle a le droit d'aller faire sa vie. Ça fait pas d'être une personne méchante, vous voyez. C'est juste que nous, on s'attache trop aux choses. On s'attache trop à l'acquis. Mais cette personne-là, elle nous appartient pas. Si elle a plus envie d'être dans notre vie, même si on n'a rien fait, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas prendre les choses à cœur, pas prendre les choses personnellement. On ne signe pas de contrat avec les gens, même si on en signe à la mairie quand on se marie. Les gens ont le droit de venir et d'aller. Et oui, ça fait du mal parfois. Je le conçois. Ce qui compte, c'est la forme, comment la personne va faire les choses. Et vous, ce qui compte, c'est d'être libre dans votre tête, de vous dire que rien ne nous menotte l'un à l'autre ou des situations à nous-mêmes. Vous voyez, quand tu démissionnes d'un taf, t'as le droit. Et si ton patron il veut plus de toi, il a le droit. Et c'est rien, en fait. Il y a plein de tafs différents. Et c'est peut-être une très bonne chose parce que ça te permettra de faire le point. C'est pareil dans tes relations. Donc voilà. Essayez de vous focus sur vous-même. Si vous êtes dans une rupture et que vous avez du mal à vous relever, déjà occupez-vous, c'est super important. Si vous pensez que vous êtes horrible, que vous vous humiliez, que vous vous méprisez, dites-vous que vraiment vous avez votre place sur terre, que Dieu vous aime, que vous méritez en fait d'être aimé. Et que c'est pas une personne qui doit définir comment vous vous voyez. En fait, la vision des autres ne vous définit pas, elle ne vous définira jamais. Si cette personne-là pense des choses de vous qui sont négatives et que vous commencez à les croire, alors juste pensez à toutes les autres personnes qui pensent pas du tout ça de vous. Et je pense pas que toutes ces personnes-là se trompent. Et si c'était vrai, imaginons, et ben juste essayez de changer, évoluer, développer des qualités qui sont à l'opposé en fait de ces défauts là qu'on cite de vous. Et si c'est vous qui avez fait du mal à quelqu'un et que vous finissez une relation, essayez juste de prendre du recul et de demander pardon et de pas laisser parler votre ego, votre fierté. Dites-vous que vous payez pas quand vous êtes gentil en fait et ça sera toujours mieux que d'être méchant. Donc si vous pouvez essayer de guérir le cœur de quelqu'un, faites-le. C'est important. Et si on ne guérit pas votre cœur, bah vous allez guérir vous-même. Remettez-vous-en à Dieu et trouvez réconfort dans votre spiritualité au sens large, dans tout ce qui vous fait du bien et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps et surtout essayez de cultiver votre amour en fait pour vous-même. Votre amour propre. Des fois, regardez-vous. Et c'est pas méchant de dire ça, mais dites-vous, non mais quand même, je suis digne. Je suis un être humain. Dieu m'a pas mis sur terre pour que je pleure pendant une semaine à cause de quelqu'un qui est plus dans ma vie. Donc voilà, petite discussion en vrac. Je sais que je vous ai dit que j'allais parler du FOMO. Là, vous savez pas ce que c'est. Je vais le faire dans un autre podcast parce que là, il est minuit 24 et je suis super fatiguée. Carrément, j'ai enregistré le podcast et depuis tout à l'heure, je veux le supprimer parce que je me dis, mais tout ce que tu as dit, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Ça alimentera nos échanges. Et puis, on pourra essayer de parler ensemble un petit peu de vos ressentis par rapport aux ruptures. En général, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre intervention ou vous voulez en discuter avec moi, envoyez-moi un DM sur Instagram. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de paix, d'amour. Et je vous dis à très bientôt.